Silcast présente Le Coin Pop Culture, thème du jour, découverte, avec Elena et Sacha. Bonne écoute. Aujourd'hui, je voulais commencer par une découverte archéologique qui vient de sortir dans les PNAS, parce qu'elle bouscule un peu notre manière de raconter la rencontre entre Néandertaliens et Homo sapiens. On a longtemps parlé de génétique, de croisement. On savait qu'il y avait eu du mélange biologique. Là, on parle de mélange culturel, et c'est autre chose.
Vas-y, plante le décor.
Grotte du Chasle 2. Sud de la Turquie, côte méditerranéenne. Une équipe internationale a épluché les couches sédimentaires millimètre par millimètre. Résultat, Néandertaliens sur place entre moins 67 000 et moins 59 000 ans, puis Homo sapiens jusqu'à 47 000. Deux locataires successifs séparés par plus de 10 000 ans dans certaines couches.
Donc pas de quoi tailler diaphrag de ces scorbes précises.
Non, et c'est important de le préciser parce que le titre de Nautilus est un peu racoleur. Ce n'est pas « ils vivaient ensemble », c'est « ils ont fait à peu près la même chose au même endroit, à des siècles d'intervalle ». 20 000 outils de pierre, essentiellement des grattoirs, avec une continuité technique frappante. Même proie, cerf, chèvre, sanglier, même stratégie de chasse apparemment.
Et sans les dents retrouvées sur place, personne n'aurait vu la bascule d'espèce.
Exactement. C'est la phrase la plus vertigineuse de l'étude. L'archéologue qui creuse voit une culture continue. Il faut la paléoanthropologie dentaire pour révéler qu'on a changé d'espèce humaine en cours de route.
Bon, la continuité technique, on peut l'expliquer platement. Même environnement, même ressources, même contraintes, donc convergence des solutions. Ce n'est pas forcément du partage culturel, c'est peut-être juste de la convergence adaptative. C'est là que je serai prudent avec la lecture interaction profonde.
Tu as raison, et c'est là que les coquillages arrivent. Columbella rustica, un petit escargot marin méditerranéen. Non comestible, pas de traces de rebut alimentaire, mais percés avec des motifs, probablement portés en perles ou en pendentifs. Et on les retrouve dans les deux occupations.
Ça, c'est déjà un autre registre.
Oui. Un grattoir, tu peux le réinventer parce que ça marche. Une perle en coquillage percé, avec la même espèce sélectionnée, non alimentaire, ornementale. C'est un choix symbolique. Et un choix symbolique partagé entre deux groupes distincts. Ça ne relève plus de la pure convergence fonctionnelle. Morimoto, l'auteur à Kyoto, parle de « préférence symbolique partagée ».
C'est là que je veux quand même mettre un bémol méthodologique parce que je te connais. Tu vas le faire toi-même sinon.
Vas-y.
On a un site, une grotte, une espèce de coquillage. On extrapole à une culture partagée entre deux espèces humaines à l'échelle du Levant. C'est un saut inférentiel énorme.
Complètement d'accord. Ce qu'il faudrait pour solidifier ça, c'est d'autres sites du Levant avec la même continuité ornementale à travers la bascule Néandertal-Sapiens. On en a quelques-uns, Xarakil au Liban notamment, mais les datations sont débattues. Pour l'instant, c'est une hypothèse séduisante, pas une démonstration.
Ce qui me plaît quand même dans cette étude, au-delà des données, c'est ce qu'elle fait au récit dominant. Pendant des décennies, on a raconté l'histoire d'un Homo sapiens supérieur qui débarque avec la pensée symbolique, l'art, la parure, et qui remplace un Néandertalien un peu bourrin. Depuis 20 ans, ce récit s'effrite. On trouve des pigments chez Néandertal, des sépultures, des ornements. Là, on ajoute une couche. Non seulement Néandertal fait de la parure, mais quand Sapiens arrive, il reprend le même vocabulaire ornemental.
Ce qui pose une question fascinante. Qui a appris à qui? Où est-ce qu'il y a eu en amont un fond commun transmis dans la longue période de contact au Levant? On sait par la génétique qu'il y a eu des croisements. S'il y a eu croisement biologique, il y a probablement eu transmission culturelle. Le coquillage percé, c'est peut-être la trace matérielle de cette transmission.
Et symboliquement, pardon, du jeu de mots, ça déplace le curseur. Le propre de l'homme moderne, la parure, la pensée symbolique, n'est plus une exclusivité sapiens. C'est une pratique partagée dans une zone de contact. Ça abîme sérieusement l'idée d'une frontière nette entre nous et eux.
Et ça rejoint un truc que je trouve important en anthropologie contemporaine. Arrêter de projeter nos catégories d'identité rigides sur des populations préhistoriques qui étaient probablement plus poreuses que nous. Deux groupes qui partagent une grotte à quelques milliers d'années d'écart, la même faune, les mêmes outils, les mêmes perles. La question « était-il différent ?» devient presque mal posée.
Ce que je retiens, moi, une belle étude, une donnée matérielle solide, une interprétation qui mérite d'être testée sur d'autres sites. Et surtout, un clou de plus dans le cercueil de l'exceptionnalisme sapiens.
Moi, je retiens la prudence de Morimoto sur le mot « probablement ». ils écrivent « probablement partageaient des préférences symboliques ». Pas « partageaient ». Le conditionnel est là, il est justifié, et c'est de la bonne science. Reste à voir si les prochaines fouilles au Levant vont confirmer le pattern ou si Hucheslédur restera une jolie anomalie locale.
On en reparlera quand la réplication tombera.
Voilà. En attendant, la prochaine fois que vous verrez un collier de perles dans une vitrine de musée étiquetée Homo sapiens paléolithique supérieur, posez-vous la question. Et si l'idée venait de Néandertal ?